Et bonsoir.
Comment ça va les gars?
Ça va, et vous? Ça va Manuel? Tu m'aimes toujours Manuel?
Non, toujours pas.
Il m'aime plus.
Est-ce qu'on fait un point d'entrée de jeu sur le fait que Romain a peut-être bu un verre de jus de pomme de trop, et comme il est assez intolérant,
j'en suis à 5, ça
comme,
va.
Comme il a un problème, il digère mal le jus de pomme, peut-être que ça va être folklorique.
Je crois qu'il a une chiasse verbale.
Bah, déjà les gars, il faut dire que le titre du podcast, c'est « Devenir riche comme Picsou en 12 étapes
ouais. »,
alors que de base, ce qui a donné lieu à ce sujet, c'était 22 étapes pour écrire des histoires comme Pixar. Déjà, on n'est pas du tout...
Oui, mais Picsou, Pixar.
C'est presque... Si ça tu changes... Ouais, c'est vrai. Donc non, je suis juste tombé sur un thread Twitter de Matt Gray, qui était super inspirant, sur comment raconter des histoires à la façon de Pixar. J'en ai sélectionné plutôt que 22, j'en ai sélectionné 12. Et en fait, vous allez voir que bah, les 12 points, c'est comment en fait raconter une belle histoire, mais d'un point de vue aussi business, pour essayer de créer de la valeur. Et du coup, de valoriser bah, ce qu'on fait.
On
et peut-être devenir riche comme
Picsou. Le storytelling, c'est important dans tous les domaines de votre vie et encore plus dans le business.
T'es d'accord avec ça, Manuel?
Tout à fait.
Manuel, est-ce que tu es riche comme Picsou?
Non, je pense que Picsou m'appelle coach.
Okay. Oh, on y est.
Ok, ok.
Non, mais Manuel est beaucoup plus... Moi, je crois au fait de raconter des histoires. Mais je ne sais pas le faire. Je me force à essayer. Mais non, mais Manuel comprend qu'il faut raconter des histoires avant de faire des clés de bras en parlant de fric. Moi, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est là où on s'assemble. C'est-à-dire
moi, je. On avait prévenu que lui, il est en podcast depuis 16 heures, mais tout seul. Sans allumer la platine, sans allumer les micros.
C'est vrai.
Il est que au jus de pomme, en fait. Donc, les gars, on vous le dit, désolé pour ceux qui écoutent, ce podcast va être compliqué, mais drôle. C'est ça qui est bien.
Oh, on va se marrer.
Moi, je crois que l'argent est une conséquence du problème que tu résous et qu'il est proportionnel à la valeur que tu apportes pour résoudre ce problème et à la rapidité et l'efficacité que tu mets en œuvre pour résoudre ce problème. Je sais, ça fait beaucoup de mots. Ne me regarde pas, on dirait... Regarde-le bien, ne dis rien, ouais. Il ne fait pas penser à une espèce de barre de ligne qui est restée un peu au soleil sur l'étal du poissonnier, avec l'œil vitreux. Bon. Pêché il y a 3-4 jours hein, déjà.
Mais non mais je...
Ah, ça frétille.
On n'a pas le même point de vue parce que...
Ça c'est sûr. Là, à cet instant précis, c'est sûr.
J'ai beaucoup de... Non mais j'ai même parfois trop de respect pour ceux qui ont su créer de la valeur et qui arrivent à la transmettre. Pour créer de nouveaux projets, etc. Donc, en général, quand il y a autant de valeur qui est transmise au sein d'un sujet, d'une nouvelle boîte que tu constitues, etc., à la façon de ce que fait exactement Manuel avec Influx, eh ben, je pars du principe que l'argent n'est pas une conséquence, mais une réalité qui te permet de financer un projet, etc., et qui, du coup, doit générer de la reconnaissance immédiate. Et Manuel m'explique que l'argent ne résout en rien la reconnaissance, etc., que c'est juste un moyen, et que c'est... D'ailleurs, tu le dis, puisque l'argent est un flux, et que qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est pas ce qui t'apportera la reconnaissance de quelqu'un, et tout ça. Voilà.
Moi, je m'en fous, je veux juste commander Uber Eats.
Voilà. C'est les seules priorités de...
L'argent n'a aucun rapport avec la reconnaissance. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen de faire des choses. Donc c'est un moyen que tu utilises, c'est un moyen pour avoir l'électricité, c'est un moyen pour avoir un endroit, etc., etc. Mais ça n'a aucun rapport avec comment tu utilises tous ces moyens mis à ta disposition.
Vas-y, on t'attend, Romain, pour les 12 points.
Ça va être long.
Bon, on commence avec la base. Donc c'est mettre ses idées sur papier pour commencer à pouvoir les corriger, parce que si elles restent dans votre tête, bah une idée parfaite que vous ne partagerez jamais à personne, ça sert strictement à rien. Donc au pire, on perd l'idée. Donc premier point, c'est écrivez des premiers jets, même si c'est des jets de merde, mais pour mettre des mots sur le papier, les partager et avoir un premier feedback. C'est d'ailleurs les premiers conseils que donnait Manuel en podcast, c'était même si vous avez une bête d'idée, bah arrêtez de la façonner dans votre coin sans que personne puisse la voir et vous donner des retours. Mmh. Au contraire, essayez de la partager aux gens déjà autour de vous pour savoir si ça sera bien ou pas avant d'être déployé à plus grande échelle.
Bah oui, c'est paralysant en fait de te dire que si tu écris un truc, il faut absolument que ce soit parfait du premier coup. T'écriras jamais rien. Tu passeras ton temps à effectivement la façonner dans ta tête et attendre que ce soit une idée bien conçue, bien faite avant de l'écrire. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut écrire. Même moi, souvent, c'est un truc que je fais quand je me fais des rushs d'écriture, c'est que je sais que les 10 premières minutes, je vais écrire des conneries. Mais c'est pas grave. Il faut juste que j'écrive, que je fasse quelques premiers pas. Et au bout de 10-15 minutes, là, je commencerai à écrire des trucs intéressants. Mais avant ça, je sais que c'est pas si important. Et le fait de faire des mind maps ou juste d'écrire dans tes notes, pas un truc qui a une forme finale, mais ça peut beaucoup t'aider à faire ça.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mais même au quotidien, et je l'ai expérimenté il y a que très peu de temps, puisqu'avant, tu me donnais une tâche, j'étais en mode, ok, il faut qu'elle soit parfaite avant que je fasse un email et que je le partage à toute l'équipe, etc. Et il y a eu un conseil au sein de Influx qui m'a été donné récemment, c'est, non, mais attends, si je te demande de faire ça, vraiment, fais-le même à 5%. Fais un mail que tu considères comme de la merde, mais juste envoie la balle, crée la balle en fait, et essaie de juste incentiver le fait qu'au sein de tes équipes, tu puisses faire évoluer les idées et ce qu'on vient de se dire. Mais il vaut mieux ça tout de suite que de patienter 10, 15 jours pour essayer d'avoir une idée soi-disant parfaite, où au final, de toute façon, tes équipes te feront des retours.
Je dirais même, si vous n'avez pas encore d'idée, volez-en une. Cherche un truc qui est dans les environs de ce que tu as envie de créer. Et vole-le, c'est-à-dire que tu réécris par-dessus et au bout d'un moment, tu vas réussir à concevoir une idée qui est la tienne, mais au début, part du travail de quelqu'un d'autre.
T'es d'accord avec ça, Manuel ?
Tout à fait.
C'est tout ?
C'est tout, point suivant.
T'as dit deuxième point ?
Le deuxième point est vraiment là pour appuyer le premier, c'est-à-dire mettez vos idées sur papier. Ben oui, non, mais c'est vrai, c'est prenez un stylo et mettez vos idées sur papier.
Super,
c'est exactement le même point.
Ben non, mais en tout cas...
Bravo, Romain. Vraiment, ce podcast est exceptionnel. Ouh là là. Alors, mettez vos idées sur papier. Deuxième point, prenez un papier. Troisième point, prenez un stylo.
J'ai 122 points.
Le troisième point, je vous laisse vous démerder avec. Vous admirez un personnage pour ses efforts plus que pour ses réussites.
Ça, c'est vrai.
Toi, tu viens avec des sujets.
Et toi, tu viens avec quel sujet, toi ?
C'est vrai, ça.
Je veux bien qu'on fasse les stats depuis le début. Tu veux vraiment jouer ?
Vous admirez un personnage pour ses efforts plus que pour ses réussites.
Ça, c'est hyper important, et même plus que ses efforts pour ses échecs.
Ah ouais ? Donc, t'es pour partager les échecs ?
Ah bah, bien sûr. C'est d'ailleurs un truc très américain. C'est un truc qu'on le reconnaît quand les Américains en parlent. On dit, putain, c'est exceptionnel. Schwarzenegger, il a eu des échecs, etc. Machin. Finalement, c'est un mec comme moi. Finalement, tout est possible. On le fait un peu moins en France, même si j'ai l'impression de plus en plus. Mais c'est hyper, hyper important de partager ses efforts, de partager ses échecs. T'as pas du tout envie d'admirer quelqu'un qui est parfait, qui a réussi du premier coup. Ça t'inspire pas. Ce qui t'inspire, c'est de voir quelqu'un qui part de rien et qui a réussi à en créer quelque chose.
Je sais que Manuel, t'es vachement dans cette philosophie-là, mais à la fin de la fin, on communique toujours plus sur ses réussites que sur ses échecs. Je veux dire, c'est pas besoin d'essayer de faire croire là qu'on parle plus de nos échecs et qu'on met plus d'énergie à communiquer sur nos échecs que sur nos réussites. Mais du coup, le point, c'est il faut pas que ça te dérange de parler de tes échecs, ou au contraire, parce que depuis quelques semaines, assez récemment, je vois de plus en plus de comptes LinkedIn français dire « cette semaine, j'ai échoué ça ». Je trouve que c'est...
Oui, bon, souvent, c'est un peu dramatique.
Bon, tu vois, t'es un peu en mode « allez, fous-toi de ma gueule, vas-y, essaie de me faire croire que t'es le pauvre Calimero, quoi ».
Mais ce qui est bien, c'est que tu peux parler de tes réussites tout en parlant de tes échecs.
Comment tu pourrais t'y prendre ? Du coup, concrètement...
C'est pas qu'on parle moins de ses échecs que de ses réussites, c'est parce qu'on nous pose plus la question des réussites que des échecs. Aux États-Unis, pendant un moment, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une conférence qui s'appelait la Fail Conference, où ils n'en recevaient que des gens qui parlaient que de leurs échecs.
C'est trop bien, ça.
Il n'y avait aucune success story. C'était un ramassis de tout ce qui avait été foiré. Et c'était hyper intéressant, parce que les gens parlaient des échecs, de ce qu'ils ont appris, de qu'est-ce qu'ils en ont retenu, de comment ça les a forgés, de comment ils font en sorte de plus reproduire ces échecs, etc., etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ambiance où on te vend de la facilité pour tout, du fait qu'on réussit la première fois, que il suffit d'aller à la télé pour avoir un métier, parce que du coup tu deviens connu et connu est devenu un métier, etc., etc. Bon, bref, voilà, c'est un problème de moment, d'époque, où on vend de l'instantanéité, de la facilité. Ce qui est faux, tout est faux là-dedans. T'as des gens que t'admires, ou t'as le sentiment qu'ils sortent de nulle part et qu'ils ont un succès fulgurant et immédiat. La réalité, c'est que ça fait peut-être 10 ans qu'ils rament.
Ouais, mais d'un autre côté, on n'arrête pas de dire « Travaille, le succès parlera pour toi ». Bah, en fait, est-ce qu'il faut raconter pendant 10 ans que tu t'es fait chier à venir
bah, bien sûr qu'il faut le raconter, okay. Si t'as une conscience et un peu de morale.
Mais il faut le raconter après, parce que t'as pas forcément envie d'écouter quelqu'un qui a juste échoué. Il y en a trop, des gens qui ont juste échoué. Il y a que ça sur Terre. Donc t'as envie d'écouter quelqu'un qui a réussi à un moment, mais qui te parle de tous ses échecs avant. C'est ça
ouais,
qui est inspirant.
Ça marche que dans cet ordre-là. Je veux dire, quand tu vois le reportage d'Orelsan sur Amazon Prime, tu te dis que si aujourd'hui il avait pas réussi, bah en fait le reportage, tout le monde en aurait rien à foutre.
Oui, c'est ce que je viens de te dire.
Ouais, je sais, mais du coup, comment est-ce que tu peux dire aux gens parle de tes échecs, etc., s'ils ont toujours pas réussi? C'est pas possible. Donc en fait, on est OK pour parler de ses échecs et pour presque en faire du marketing à grande échelle si t'as réussi après.
Mais dans tous les cas, ton storytelling, il sera plus impactant si t'es quelqu'un. Ça t'empêche pas d'en faire avant.
Okay.
Et tu seras plus écouté si en tant que Bill Gates, tu racontes quand t'as échoué, qu'en tant que pizzaïolo du quartier, ça c'est certain.
Ok, quatrième point les gars.
Ouais.
Tu dois garder à l'esprit ce qui est intéressant pour toi en tant que public, pas ce qui est amusant à faire en tant qu'auteur. C'est très différent.
Ce qui est intéressant pour toi en tant que public.
Ouais, et pas ce qui est juste amusant à faire en tant qu'auteur. En ouais. Synthèse, il y a des trucs parfois qui nous éclatent et où on se dit « Ah putain, ça c'est une trop bonne idée !» En fait, si tu réfléchis deux secondes, ton public, il s'en battra les couilles, quoi.
Ça, c'est un truc que beaucoup de chaînes YouTube n'ont pas compris. C'est qu'ils filment des trucs qui sont marrants à faire entre potes, mais pas du tout à regarder.
Ouais, mais d'un autre côté, d'un point de vue B2B, quand tu penses à Apple... Ben, jamais ils vont se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour notre public.
Ah si, ils font que ça.
Ah putain, moi j'ai... Ouais, mais vu qu'ils n'interrogent pas du tout le public, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'ils font.
Ça c'est autre chose. C'est juste qu'ils leur demandent pas ce dont ils ont besoin. Ils font ce dont ils ont besoin. Mais ils ne pensent qu'au consommateur.
Ok.
C'est juste que le consommateur ne sait pas ce dont il a envie. Parce que c'est pas son métier.
Comment tu gères ça, Manuel? Le fait de se dire à certains moments, je dois penser à la place de mes clients. Et à certains moments, je veux faire ce qui m'anime, moi, réellement, dans ma boîte.
Moi, je fais pas du B2C. Ce conseil, il est valable en B2C. Je fais du B2B.
Mais t'as quand même le fait de te mettre à la place de ton client pour résoudre sa problématique.
Bien sûr. Mais je pense que ce conseil, il est surtout valable en B2C. C'est-à-dire qu'en gros, il dit ne vous gargarisez pas, faites pas des trucs techniques d'experts, gardez toujours la vie du grand public non initié, essayez d'être compris du plus grand nombre, essayez de vulgariser, de pas utiliser des langages techniques, etc. etc. En gros, c'est ça ce que dit ce conseil-là. En B2B, c'est moins implicable. Mais évidemment qu'il faut toujours de l'empathie, ça part du même ressort, t'as de l'empathie pour ton audience, c'est le principe de la communication, c'est-à-dire que si l'émetteur ne tient pas compte de qui écoute, bah, il est beaucoup moins pertinent que s'il tient compte de son audience, en fait.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc, mais bon...
Vous voulez que je partage un fail, du non. coup, récent, sur mes bah, propres réseaux?
Ah bah oui.
Bah non.
Bah si.
Ah bah si. Au pire, on le coupe.
Bah pendant un moment, j'ai pensé qu'il fallait faire ce qui, moi, me plaisait pour que ça continue de bien fonctionner sur les réseaux sociaux.
Oh, le con.
Et à la fin de la fin, quand je regarde ma chaîne YouTube et que je me dis, bah, en fait, ça fait plus de 10 ans que tu présentes des produits high-tech, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour découvrir des produits high-tech, pas pour voir Romain qui fait vroom vroom avec une Porsche 911 dans un vlog. Et ben voilà, c'est exactement cet exemple-là qui fait qu'à un moment donné, il faut juste réaliser que ton public est là avec des attentes et que si en plus de ça, tu l'as habitué pendant des années, il ne faut pas juste penser par ego qui te suit pour toi, c'est faux. Ou alors il faudrait vraiment, c'est des exceptions, mais c'est presque impossible.
J'irais même plus loin que ça. Toi, t'es pas censé kiffer en fait. T'es pas censé t'amuser. Tu peux être passionné par ce que tu fais, mais t'es pas censé prendre du plaisir tout le temps. C'est ton taf en fait. Moi, quand je fais une vidéo et que je cherche des infos et je me défonce le cerveau pendant des heures, bah c'est pas un pur plaisir. Mais je suis pas censé prendre du plaisir à la tâche. Ce qui m'intéresse, c'est que le résultat soit plaisant et que le résultat satisfasse les gens qui sont venus le regarder. Mais le fait que moi, je kiffe pas pendant l'exercice, bah, c'est ce qu'on appelle un travail. Donc ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient et ils sont persuadés que parce que tu fais un travail par passion, il faut absolument que ce soit du kiff en permanence. C'est très très loin de la réalité.
Cinquième point, trouver la fin de votre histoire avant de trouver le milieu. Sérieusement, les fins sont difficiles. Travaillez la vôtre dès le départ. Ça, c'est intéressant de penser vraiment à l'objectif final ou à se dire, tiens, pour moi, la consécration, ça serait ça, avant même de démarrer, etc. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord parce que je me dis, bah, on a démarré plein de trucs en se disant, on sait pas du tout où est-ce que ça va aller. Et finalement, c'est en le faisant que tu te dis, putain, en fait, si...
Parce que ça s'applique vraiment au storytelling.
Toi, tu l'utilises ?
Moi, quand je travaille une vidéo, je connais d'abord le titre, ensuite la fin et ensuite le reste. En général, j'ai ma phrase de frein qui est déjà écrite à l'avance en général. Après, dans le business, je sais pas à quel point ça s'applique. Est-ce que tu penses à l'issue tout de suite?
Avant ça, peut-être juste dans les newsletters, tu le fais aussi toi, Manuel, ou t'écris ta newsletter sur manueldiaz.fr évidemment. T'écris ta newsletter en connaissant déjà la fin et l'objectif final pour la personne qui va le lire. Ou pas vraiment, t'as une idée du sujet?
Toujours.
Ah ouais?
Toujours. J'écris en sachant où est-ce que je veux l'amener. Après, j'écris l'histoire en conséquence de la destination. Souvent, j'ai le début et la fin. Au milieu, c'est là qu'il faut écrire.
Ah ouais, donc vous utilisez vraiment, pour le coup, ce conseil, vous l'appliquez vraiment, quoi?
Ouais, quand tu commences à écrire un peu et raconter des histoires, c'est évident. C'est évident que tu vas quasiment commencer par la fin, parce que c'est ce qui va te permettre de savoir ce que tu écris avant, en fait. Faut que ça t'emmène jusqu'ici.
Moi, ça me le fait sur quelques sujets. Pas sur tous, parce que quand je fais des tests de produits, etc., à la fin de la fin, c'est tester un produit, avoir un avis.
Oui, mais quand même, la fin, c'est la vie que tu vas donner aux gens, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Donc, dans tous les cas, tu penses à ta fin.
Oui, c'est vrai qu'avant de faire une vidéo sur un produit, je me dis, bon, si c'est pour dire à tout le monde de ne pas l'acheter,
Même quand tu fais ta liste de courses, hein. Tu veux savoir ce que tu vas bouffer, donc du coup.
c'est un super exemple.
Tu veux savoir ce que tu vas chier.
Alors là, c'est vraiment la fin de la fin.
C'est la fin. Est-ce que la fin justifie les moyens? Vas-y, point suivant.
Lorsque vous êtes bloqué, faites une liste de ce qui ne devrait pas se passer ensuite. Et très souvent, cela vous permet de sortir d'une impasse.
C'est bizarre ça. Je ne me reconnais pas du tout là-dedans.
Moi non plus, mais c'est en mode, quand on est bloqué, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, même si je ne sais pas ce qui doit se passer après, qu'est-ce qui ne doit surtout pas se passer?
Dans ton histoire?
Oui, dans
d'accord,
ton histoire.
D'accord, ok. Oui, tu t'imposes des limites. Ça, c'est une règle d'innovation basique. Avant de savoir ce que tu fais, tu sais où tu vas pas et ça te permet de restreindre les possibilités, donc tu les trouves plus facilement.
Est-ce que c'est ce qui fait qu'en général, les projets qui démarrent en disant tout le monde voudra l'acheter, c'est qu'en général,
ça marche pas. Tu crées ta propre niche en fait et ça te permet effectivement de créer ta solution.
Remettez à plus tard la première chose qui vous vient à l'esprit et la deuxième, et la troisième, la quatrième, la cinquième. Éliminez ce qui est évident. Surprenez-vous.
Le mec était bourré. C'est ma théorie, en fait. Ma théorie, c'est que Romain a construit un sujet sur un thread où le mec était complètement bourré,
non,
en fait.
Non, ce qui est intéressant dans ce point-là, c'est que...
Vous êtes en phase, en fait.
Passe plus de temps sur ce qui n'est pas évident plutôt que sur ce qui est évident. C'est ça, c'est ce que ça veut dire.
Et moi, j'utilise beaucoup ChatGPT. Donc, qui est une intelligence artificielle avec laquelle on peut communiquer, pour trouver des axes créatifs et un peu perchés.
Il paraît que ce projet pue du cul.
Bien, bien joué. Pour trouver des axes complètement perchés. Quand j'ai une idée qui est un peu terre-à-terre, je lui dis, mais trouve-moi de nouvelles façons de l'amener, et ça me donne des résultats intéressants.
Tu utilises, toi, ChatGPT ou pas?
Oui, pour rigoler, oui.
Ok.
Pour rigoler.
Mais au quotidien ou pas?
Non, je lui demande des trucs, des fois il me surprend.
Ok, il écrit toutes tes newsletters, tu peux le dire aux gens.
Non.
C'est intéressant pour le coup, il faudrait qu'on en parle peut-être à un moment dans un podcast d'intelligence artificielle, ça peut être intéressant. Si vous étiez votre personnage dans cette situation, comment vous sentiriez-vous? L'honnêteté donne de la crédibilité à des situations incroyables.
À ce stade, je pense que vous pouvez arrêter d'écouter ce podcast, on vous en voudra pas.
Ouais, tu sais que ce point, ça veut juste dire regarde-toi dans la glace et arrête de te mentir, en gros. C'est si tu dois arrêter de te raconter des mensonges sur « ah non, mais ça, c'est trop bien, machin et tout », et que tu te regardes vraiment en face et que tu te dis « en fait, si j'y passe juste deux secondes, c'est de la merde ». Ça veut dire ça. C'est... Comment est-ce que tu te sens si tu dois être à la place de ton consommateur? En gros, si on doit le voir d'un point de vue B2B, B2C, c'est ça.
Putain, qu'est-ce qu'ils mangent bien, les gens qui regardent mes vidéos. Gucci. J'aimerais trop être à leur place. J'aimerais trop découvrir une vidéo Léo Duff. T'imagines la sensation que ça doit être? Je suis 100% au premier degré.
En vrai, non mais Léo en rigole. Mais Manuel, quand on a commencé à échanger tous ensemble sur Influx pour représenter des créateurs, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui se fait sur ce marché? Et on observait tellement de merde qu'on s'est très rapidement dit, non mais attends, si t'es sérieux deux secondes et que tu fais les trucs juste proprement, pas de façon exceptionnelle, mais juste proprement, il y a moyen d'être très vite présent parmi les acteurs fiables et professionnels dans le marché. Donc en fait, quand tu veux créer aussi une structure, je pense, et créer de la valeur sur un problème que tu résous, regarde déjà ce qui se fait autour et dis-toi, attends, est-ce que les problèmes que je résous et la valeur que je crée, comment est-ce que je me situe par rapport à la concurrence? Et tu peux très vite te dire, bah en fait, putain, celui d'en face, c'est tellement meilleur, tellement plus rapide, que bah en fait, c'est peut-être pas si exceptionnel ce que je fais, quoi.
Ouais, ça, c'est difficile, je pense, à reconnaître.
Ah ouais?
Bah ouais.
Mais toi, tu regardes ou pas du tout d'autres youtubeurs?
Mais moi, je suis le meilleur, en fait. Je sais pas pourquoi tu me poses cette question, ça ne s'applique pas du tout à moi.
Bon, quoi qu'il en soit, si vous faites de la merde, le neuvième conseil, c'est un travail n'est jamais gaspillé si ça ne marche pas. Laissez tomber et passez à autre chose. Ça reviendra plus tard pour être utile, peut-être.
Bah, t'auras déjà appris que ça ne marche pas, ce qui est une leçon.
Mais pour ça, faut aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'aime pas les gens qui te disent « Oui, oui, j'ai essayé, ça marche pas. T'as essayé combien de temps ?» Bon, vendredi, entre la pause café et la pause du goûter.
Oui, mais s'il a abandonné, peut-être que ça marchait pas pour lui.
Ou peut-être que c'est une merde.
Peut-être que ça marchait pas pour lui. C'est pas son truc.
Peut-être qu'un mec qui fait une pause de goûter est pas mindé pour le boulot.
Oui. Peut-être. Non, mais c'est le meilleur apprentissage. Ça rejoint le point que tu disais tout à l'heure où le fait d'exclure des possibilités, d'exclure des options, ça rejoint ce point-là. C'est-à-dire que si t'as testé un truc et que ça marche pas ou alors ça te plaisait pas, etc., bah c'est très bien, c'est une option de moins pour l'avenir. C'est la meilleure leçon que tu puisses apprendre.
La leçon C'est un podcast, fatigué.
Parce que laissons-la aux autres, c'est ça que je voulais dire.
C'est la phrase de Mandela. Je ne perds jamais, dans un cas j'apprends, dans l'autre cas je gagne.
Et pour ça, il faut tester et déployer vite.
Ouais.
Moi, je suis pour aujourd'hui déployer plus vite que prévu et faire un truc pas ouf, mais au moins tu t'en aperçois plus vite que si t'attends encore une fois des semaines pour optimiser le truc.
L'enfant de Romain n'apprendra pas à faire du vélo avec des petites roulettes.
Bah
il va tout de suite être sur un vélo de compète.
Ah oui.
Voilà, 5 ans. Sera traumatisé.
À mon avis, une motocross. Hein.
Ouais.
Tu veux parler de l'éducation que t'as essayé avec moi, c'est ça, Manuel? Tu veux expliquer non, un
Attendez, breaking news. Manuel Diaz est le père de Romain Lanéry.
Non, parce que en synthèse, l'éducation de Manuel du jour au lendemain, c'était tiens, ne dors plus, vois ce que ça donne.
C'est bizarre parce que Romain est noir. Je teste au cas où il y a des gens qui connaissent que le podcast.
Ils sont trop cons. Dixième point, il faut se regarder en face, la différence entre faire de son mieux et s'agiter.
Ah oui, ça c'est sûr.
Parce que beaucoup vont te dire « Non, non, mais j'ai essayé vraiment et tout. » En fait, à part brasser du vent, ils n'ont rien fait de concret, quoi.
Une éolienne?
Ouais, encore. C'est peut-être plus efficace une éolienne qu'une personne qui s'agite dans une pièce. Elle produit même pas d'électricité, elle en consomme.
C'est vrai. Moi, quand je rencontre des écologistes, mon petit cadeau de bienvenue à l'apéro, c'est un petit bout d'uranium.
Ah, c'est gentil, ça.
Oui.
Mais t'as ça tout le temps dans tes poches?
Ouais, j'adore.
Je pensais que t'aurais plus de punchline, Manuel, sur les gens qui s'agitent.
Bah écoute, depuis le début je m'emmerde, on va pas le cacher quand même.
Mais tu vois là, on est dans une honnêteté pure.
Ah ça c'est sûr.
Ça fait partie de tes points, donc...
Peut-être.
Ce que fait Manuel, c'est un total respect du sujet.
Bon, eh bien, 11e point qui ne va surtout pas surprendre Manuel, parce qu'il va se dire ils sont complètement cons pour pas comprendre ça.
Pensez à respirer.
Ne commencez pas par écrire avant de bien comprendre votre sujet, votre objectif final et votre position.
Et avant de savoir écrire.
Alors, oui et non, parce que tu liras jamais tous les articles et tous les livres de la planète avant d'écrire. Donc ça peut aussi être paralysant comme concept.
Je pense que ce point, il veut plutôt dire...
Déjà, il veut dire qu'il y a plein de gens qui font des trucs sans écrire.
Voilà.
Il y a plein de gens qui font... Mais on serait surpris. Mm. Parce que nous, ça nous paraît naturel. Mais il y a plein de gens qui se lancent dans des trucs, ils allument la cam et ils font à l'instant.
Ouais. C'est fou. C'est une compétence que j'ai pas du tout, moi.
C'est-à-dire? Ah non, mais vraiment, à ce point?
Ouais, oui. Et ils font des trucs. Puis après, le monteur se démerde.
Mais bien sûr.
Ah oui, mais c'est les fameuses vidéos où si t'enlèves le monteur, il n'y a aucun fond et tu te fais chier.
Pas forcément. Regarde McFly et Carlito, je suis pas sûr qu'ils écrivent à chaque fois.
Tu rigoles, mais pas du tout. McFly et Carlito, mais tu rigoles, ils savent exactement mais quel invité il va y avoir, dans quel set ils vont le faire, quelle va être la...
Mais ça, c'est pas de l'écriture.
Bah non, mais du coup, c'est pas du tout, j'allume ma cam et on verra bien ce qui se passe. McFly et Carlito, il y a 20 personnes derrière.
À partir du moment où ils allument la cam, ils voient ce qui se passe.
Mais non, parce qu'il y a la prod derrière qui a prévu un scénario.
Il y a un peu d'impro quand même, mais il y a quand même un fil conducteur.
Mais il y a un format, mais une fois qu'ils allument la cam et qu'ils ont des invités, ils font pas lire. lire avec un prompteur des vannes aux invités.
Non, mais en fonction du format, ils savent ce qui va se passer. Soit il y en a qui vont rire, soit ils vont se forcer à ne pas rire, soit ils vont jouer à un jeu.
C'est du planning. Mais quelqu'un qui fait un vlog à Disney, dans ce cas-là, tu peux dire bah, il a prévu d'aller à Disney.
Non. Ah, t'es chiant, pauvre putain. Con. Bon, 12e point.
Ah, enfin.
Oh. Pour toute activité créative, 90% de perfection en 2 semaines, 99% de perfection en 2 ans. En synthèse, déploie vite ton truc parce qu'il n'y a que le fait de l'avoir déployé et d'y travailler après pendant plusieurs mois qui fera que tu l'affineras. C'est une fois que tu l'auras déployé que tu auras des feedbacks pour l'affiner.
D'où l'importance des deadlines. Moi, je sais que quand j'attends encore des semaines ou des mois pour sortir un truc, il n'y a que moi qui veux voir la différence entre si je l'avais sorti il y a un mois et...
Moi, de mon point de vue, ce que dit ce mec à ce moment-là, c'est que tu peux être bon, mais devenir excellent prend des années.
Ouais, mais ça demande
aussi... Mais si tu démarres en dessous de bon, t'es déjà out of market, donc tu n'espères pas exister sur ton marché. Il faut déjà que tu te qualifies comme étant plutôt bon, à 90%. Mais après, pour gagner 9%, ça peut prendre des années et des années et des années.
Mais plus que des années, ça demande que tu sortes plein de trucs, en fait. Ça demande que tu sois actif.
Pas ça que demande que tu essayes, que tu te plantes, etc. Et ça va prendre du temps.
Je peux faire une référence vroom vroom?
Non.
Bah, en karting?
Non.
Putain,
on a dit non.
On a dit non, c'est fou. Tu poses la question, t'as une réponse, tu ne l'écoutes pas.
C'est la majorité. On est trois dans cette pièce.
On a voté.
Et il y en a deux qui peuvent voter.
À l'unanimité, que c'était non. Merde!
Bon, eh ben, j'espère que ces 12 points vous ont plus plu qu'à Manuel, en tout cas.
Oh là là! J'espère que vous aurez trouvé ce podcast long. Aussi chiant que nous.
Vous savez quoi? Dites-nous sur le. Sur, c'est quoi? Hashtag takeout?
Ouais, toujours.
Bah, dites-nous si cet épisode vous a plu.
Parce qu'à nous, non.
Moi, oui. Hein.
Mais c'est le principal.